Été 1940, l'Europe est à genoux, Paris est tombé, Varsovie a brûlé, et Hitler se prépare pour éliminer son dernier obstacle, la Grande-Bretagne. Mais pour envahir l'Angleterre, déjà il y a la Manche à traverser, bon ça nous on est au courant. Mais il faut surtout d'abord maîtriser le ciel. En juillet 1940 débute la bataille d'Angleterre, qu'Hitler compte gagner en 2 semaines. Sauf que sur son chemin se dresse un adversaire de taille, le Supermarine Spitfire. Ah, c'est mon avion historique préféré, j'assume, j'ai un avion là au-dessus de mon bureau. Mon fils avait un jouet, et j'en avais même fait une maquette. Eh, moi ? Je l'adore parce qu'il est beau, qu'il est emblématique, et parce qu'en 1940, c'est lui, entre autres, qui va mettre un frein net à l'avancée allemande. Lui est bien sûr The Few, les quelques centaines de pilotes de la Royal Air Force qui vont tenir tête à plus de 2500 avions allemands. Winston Churchill le résumera d'une phrase restée célèbre, « Jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu ». Alors oui, je sais ce que je m'apprête à faire. Pour une fois, aujourd'hui, on va dire du bien des Rosbif. En tout cas, de l'un de leurs avions. Je sais. Mais pour le coup, le Spitfire, c'était vraiment quelque chose. Un point historique rapide tout d'abord. L'histoire du Spitfire, c'est d'abord celle d'un ingénieur britannique du nom de R.G. Mitchell, un génie obsédé par la vitesse. C'est un type têtu, travailleur, mais surtout visionnaire. Il avait déjà conçu les avions les plus rapides du monde pour la Schneider Trophy. C'était une course d'hydravion, française d'ailleurs. Donc, disons que la rapidité, c'était son truc. Et voilà, sous vos yeux, l'ancêtre du Spitfire. C'est de là que va naître sa forme unique, avec ses ailes courbes comme une lame, et une finesse aérodynamique jamais vue. Il est magnifique, ne mentez pas. Ironie de l'histoire, son premier vol a lieu en 1936. C'est précisément la date où l'Allemagne réarme et remilitarise la Rhénanie. Autre ironie de l'histoire, plus tragique, Mitchell meurt d'un cancer en 1937, 3 ans avant de voir son œuvre enflammer le ciel de l'Angleterre. Car c'est bien en juillet 1940 que la bataille d'Angleterre commence. Le Supermarine Spitfire s'apprête à briller. Je sais, habituellement ce ton, je l'emploie quand je parle de la France, de l'histoire de France. Je sais, mais c'est le Spitfire, quoi. Alors oui, pour une fois, on va dire du bien d'un truc britannique. Alors même que, 1940, ils viennent juste de nous la faire plus ou moins à l'envers sur les plages de Dunkerque. J'ai fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs. Donc pour une fois, on va parler en bien d'un truc anglais. Mais juste avant, histoire de rétablir un peu l'équilibre, revenons en France avec mon partenaire des éditions Phoenix. Vous les connaissez maintenant, c'est vraiment la maison d'édition à suivre pour tous les amoureux d'histoire de France. Sur leur site, ils vous proposent une jolie collection de beaux livres sur les grands personnages et les grandes périodes de notre histoire, de Vercingétorix à Napoléon, de la Gaule romaine à la Révolution, en passant par les croisades, Jeanne d'Arc et bien d'autres. L'Antiquité maintenant, avec leur dernière collection qui vient s'ajouter à un catalogue déjà bien rempli. Une belle façon de se réapproprier votre histoire, le tout avec des auteurs de référence et surtout de beaux ouvrages. Format royal, couverture cartonnée, dorure, signée, sans parler des éditions collector. Et à l'occasion des fêtes, Phoenix vous propose justement des réductions sur tous leurs livres, collector inclus. Et en parlant de collector, cette promotion de Noël s'accompagne d'une sortie majeure, le livre Saint-Louis et son temps d'Henri Vallon. Il est donc adapté en version de luxe avec toujours ses dorures mais aussi sa couverture embossée de motifs singuliers. Une idée de cadeau parfaite pour vos proches ou pour vous-même si vous voulez commencer à vous construire une bibliothèque solide et qui a du style. Ça soutient la chaîne, ça soutient cette jeune entreprise française, ça soutient le patrimoine aussi et bien sûr l'économie locale parce que tout est fait en France. Je vous laisse donc aller découvrir leur catalogue et profiter de leur réduction de Noël en cliquant sur le lien en description. Merci Phoenix, vive l'histoire de France et maintenant, retour en Angleterre. 10 juillet 1940, donc, début de la bataille d'Angleterre. La Luftwaffe aligne ses bombardiers Henkel et ses chasseurs Messerschmitt 109. Hitler est confiant, très confiant, puisqu'il pense balayer la RAF en 2 semaines. Petite erreur de calcul. Sauf que ça a malheureusement marché pour nous, hein. J'en ai fait 2 vidéos sur la débâcle de 1940, je vous mets tout ça en description. Sauf que la Manche, c'est pas les Ardennes, et pour envisager une invasion, il faut d'abord être maître du ciel. Qui tient le ciel, tient la guerre. Chose que les Russes ont toujours pas compris presque 100 ans plus tard, avec leur artillerie et leur doctrine de masse, bref. Donc la bataille d'Angleterre commence. La Luftwaffe avance ses pions, confiante. Mais là, elle va se retrouver face à un mur. Bien déterminée à défendre coûte que coûte son territoire, la RAF va livrer une bataille impressionnante et une résistance acharnée dans le ciel. Les Anglais alignent 700 avions, des Hurricanes et des Spitfire environ. Et face à ça, plus de 2500 avions allemands. Des chasseurs, des bombardiers, des bimoteurs. C'est énorme, c'est énorme. Et pourtant, les Anglais ne vont rien lâcher. Ils vont se battre avec acharnement face à des formations entières, parfois 1 contre 10. Raid après raid, ça ne passe pas. Le 15 septembre 1940, la Luftwaffe tente l'assaut final. Le fameux Battle of Britain Day. Résultat, 56 avions allemands abattus en une journée. Hitler reporte l'invasion et ne la retentera plus jamais. Le bilan, environ 1900 avions allemands abattus contre près de 1000 côté britannique. Mais surtout, une invasion évitée, c'est le premier échec d'Hitler. Cette résistance acharnée, ils la doivent à leur état d'esprit, à leurs pilotes, je vais y revenir, mais aussi et surtout à un très bel oiseau, le Spitfire. Parlons-en justement. On dit souvent que le Spitfire n'était pas un avion, c'était un tempérament. Une silhouette fine, des ailes elliptiques et un rugissement qui faisait vibrer le ciel britannique et les cœurs. Rien que son nom, Spitfire, littéralement cracheur de feu, ça claque. Sous son capot déjà, un moteur mythique, le Rolls-Royce Merlin, un V12 de 27 litres, 1000 chevaux d'acier, d'où ce bruit mythique lui aussi.
Rolls-Royce Merlin engines.
Les civils britanniques le reconnaissaient rien qu'au son, hein, on dit même dans leur sommeil, et lorsqu'ils en apercevaient un dans le ciel, ils le saluaient d'un geste de la main. Techniquement, le Spitfire était un bijou. Vitesse de pointe, près de 580 km/h. Plafond, donc hauteur max, plus de 11 000 mètres. Équipement, 8 mitrailleuses Browning de 7,7 mm. Mais ce qui faisait sa force avant tout, c'était sa maniabilité. Un Spitfire pouvait virer plus serré que tout ce qui volait à l'époque. Les pilotes disaient qu'il dansait dans le ciel, pendant que le Messerschmitt 109, son principal adversaire, lui, grimpait. Voilà pourquoi il a été aussi efficace. Le Messerschmitt Bf 109, lui, c'est l'ingénierie allemande dans toute sa splendeur, mais aussi toute sa rigueur. Il est compact, tranchant, pensé pour la performance pure, brutal, mais prévisible dans ses réactions. Et puis, vu le trajet, il avait que plus ou moins 15 minutes d'autonomie dans le ciel britannique. Le Spitfire, lui, incarne la liberté et la souplesse. Des lignes fluides, des ailes elliptiques conçues pour réduire la traînée et augmenter la vitesse. Un pilotage plus vivant et réactif, un moteur puissant et résistant, qui fonctionne même en flammes et criblé de balles. Ah, c'est sûr, c'est pas mon 1 litre de PureTech, hein. C'était un avion aussi nerveux que gracieux. J'ai l'impression de vous parler du Rafale quand je parle de lui, mais en vrai, je pense que c'est son équivalent de l'époque. Et le Messerschmitt allemand, l'équivalent du F-35 américain. Oh oui, Rafale contre F-35. Je prépare une vidéo là-dessus. Même les Allemands l'admiraient et le redoutaient. Une citation qui en dit long, attribuée à l'as allemand Adolf Galland. Quand je voyais un Spitfire dans mon dos, je préférais sauter tout de suite. Un jour, même Göring, donc le chef de la Luftwaffe, lui demande « Que vous faut-il pour vaincre ces maudits Spitfire ?» Et Galland lui répond « Un escadron de Spitfire ». Aussi, le Spitfire, c'est un avion qui a pas mal évolué avec la guerre. Du MK1 fragile de 1940 au MK24 de 1945, il a changé de moteur, d'aile, de rôle, mais jamais d'âme. À chaque nouvelle version, il restait ce qu'il était, l'équilibre parfait entre puissance, souplesse et grâce. Un avion fait pour que le pilote et sa machine ne fassent plus qu'un. Klostermann, pilote français libre qui l'a piloté, l'a dit « C'était comme enfiler un gant. Tu faisais corps avec lui. Le Rafale ! Le Rafale ! » Dans les hangars de la RAF, les mécaniciens travaillaient jour et nuit. Hein. On dit qu'ils dormaient à côté de l'avion. Bref, le Spitfire, c'était ça. Un moteur Rolls-Royce, un cœur d'acier et une allure de chevalier. Et surtout, un avion qui est devenu la légende qui a tenu tête à Hitler. Et l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'y a pas qu'à lui que les Britanniques doivent leur victoire. Il y a aussi beaucoup les pilotes. Ces pilotes, The Few, qui signifie les quelques, hein, ils ont à peine 20 ans, voire moins, ils sortent à peine de l'école. Et ils se battent comme des lions. Et ils y retournent. C'est fou. Ils accomplissent jusqu'à 5 sorties par jour, parfois même sans retirer leur combinaison. Entre deux raids, certains s'endorment littéralement en vol. Et malgré tout, ils tiennent. Parmi eux, des légendes comme Douglas Bader. Douglas Bader, déjà de base, il aurait même pas dû voler. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu ses deux jambes lors d'un crash avant la guerre. Donc, pas évident quoi. Malgré ça, en 39, il revient. Il enfile ses prothèses mécaniques et il demande à voler de nouveau. Refusé, logiquement, mais il insiste, il réapprend tout. Et finalement, au bout du chemin, il devient as de la RAF, avec plus de 20 victoires à son actif. Anecdote amusante, sans jambes, eh ben, il supportait moins les jets que ses camarades, parce que tout simplement, le sang ne pouvait pas descendre dans ses jambes. Moi, je trouve ça marrant. Un jour où son Spitfire est abattu au-dessus de la France, les Allemands, impressionnés, lui renvoient ses jambes en parachute pour qu'il puisse marcher dans le camp, dit-on sur ordre direct de Göring. Donc oui, même les Allemands et la Luftwaffe respectaient Douglas Bader. Mais dans la RAF, il y avait aussi des héros étrangers. Les Polonais, d'abord. Des hommes qui ont vu leur pays anéanti et qui volent désormais pour en défendre un autre. Il y avait deux escadrons polonais dans la RAF, dont le 303e escadron Kosciuszko. Eux, c'était littéralement des fous furieux, des malades mentaux. Les Allemands les appelaient les fous furieux venus de l'Est. Leur bilan ? 126 avions allemands abattus en 6 semaines et seulement 8 pertes de leur côté. Les pilotes britanniques disaient « Laissez les Polonais décoller les premiers, ils nettoient le ciel avant qu'on arrive. » Ça me fait penser aux lanciers polonais de Napoléon un peu. Et il y a plein d'anecdotes sur eux, faudrait que j'en parle aussi un jour en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Leur devise était une promesse pour notre liberté et la vôtre. Et cette promesse, ils l'ont tenue. Et il y avait aussi des Français libres. Oui, des Français ont volé sur Spitfire. Il y en avait 500 à 600 dans la RAF, dont plus de la moitié sur Spitfire. Des pilotes venus de nulle part qui peignaient une croix de Lorraine ou une cocarde tricolore sur la carlingue de leur Spitfire. Petit point sur la cocarde, hein. Une cocarde se lit à partir du milieu. Je vous affiche la cocarde française et britannique. Donc, la cocarde britannique, à partir du milieu, c'est rouge, blanc, bleu. Nous, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà, histoire de ne pas les confondre, vous le saurez. L'escadron 340 Île-de-France, le 341 Alsace, le 345 Berry, Klostermann, pilote du Grand Charles, 33 victoires, et puis René Mouchotte, Schlossing. Ils ont survolé la France occupée avec peint sous l'avion ces mots « Vive la France libre ». Le 6 juin 44, lors du débarquement, près de 100 Spitfire sont pilotés par des Français qui survolent les plages. 4 ans après avoir défendu Londres, ils reviennent pour libérer leur pays. Voilà, eux aussi ont pu participer et profiter de ce bijou. Pour finir et en revenir à 1940, après la bataille d'Angleterre, les combats ne s'arrêtent pas. La Luftwaffe bombarde Londres pendant 57 nuits consécutives, c'est le Blitz. Le Spitfire reste en alerte jour et nuit. Puis vient la contre-offensive. Les Spitfire escortent les bombardiers, attaquent les bases allemandes, volent au-dessus de la Normandie avant de finalement participer au débarquement jusqu'à la fin de la guerre. Après la guerre, le Spitfire continue de voler jusque dans les années 50. Puis il devient une légende, le symbole de la résistance d'un peuple face à Hitler et la machine de guerre allemande. Quel parcours, quel bilan, mais surtout quelle allure et quelle classe. Voilà, j'ai fini de dire du bien des roast beef. Je vais prendre une douche, je reviens. Si vous voulez raviver votre haine de l'anglois, il y a plein de vidéos pour ça sur ma chaîne. Et puis on n'oublie pas Dunkerque et surtout les bombardements meurtriers de la libération. Il y a une vidéo là-dessus aussi, je la mets en description. À part ça, j'espère que ça vous a plu et intéressé malgré tout. J'avais envie de parler de cet avion mythique parce que je l'adore pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Dites-moi en commentaire si vous me pardonnez cet écart et ces mots positifs à l'égard de l'ennemi héréditaire. Et dites-moi aussi si vous partagez mon avis sur cet avion légendaire. N'oubliez pas que vous pouvez également me suivre sur Twitch. J'ai repris les streams. Là, on est sur Crusader Kings et les spectateurs peuvent, avec leur point de chaîne, renommer des personnages dans le jeu. Ça nous donne des situations hyper drôles. On s'amuse bien. Je vous mets aussi le lien vers ma chaîne Twitch en description. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez suivre mes prochains contenus et me soutenir. Et likez aussi, bien sûr. Moi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. En ce moment, j'enchaîne pour une nouvelle vidéo.